et discrimination.
Il y a encore des barrières systémiques aux personnes qui vivent des enjeux.
Ne manquez pas cette discussion passionnée autour des questions de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, disponible maintenant sur le ckiafm.org ainsi que sur vos plateformes préférées.
Le Mois Multi, festival d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'espace 400e, expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art, découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit?
Consultez la programmation au moismulti.org.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici vos nouvelles du mercredi 23 février. Une vaste opération policière liée à la sécurité routière aura lieu le 24 février à la grandeur de la ville de Québec. Des agents seront déployés à divers endroits sur le territoire, dont près des établissements scolaires. L'école Saint-Malo, dans le quartier Saint-Sauveur, fera partie des lieux ciblés. Rappelons que le 21 février, une jeune fille a été impliquée dans un accident près de l'école Saint-Malo à l'intersection des rues Marie de l'Incarnation et Raoul Jobin. Un conducteur lui a roulé sur le pied, a indiqué le porte-parole du service de police de la ville de Québec. La victime a été conduite à l'hôpital, ses blessures sont mineures. C'est pourquoi des agents surveilleront dès demain les attitudes à la sécurité routière, comme l'usage du cellulaire au volant, la vitesse excessive ou le non-respect de la signalisation. Julie Réaume nous en parle dans un article publié sur monquartier.québec. La prochaine séance du Conseil d'agglomération aura lieu ce mercredi 23 février à 13h en visioconférence. Les citoyens et citoyennes souhaitant poser leurs questions au Conseil d'agglomération pourront le faire par l'entremise d'un formulaire disponible sur le site ville.quebec.qc.ca/conseil-agglomération. Les questions doivent être envoyées avant 11h30 aujourd'hui. Elles seront lues et les élus y répondront selon l'ordre déterminé par tirage au sort. Cette séance ne sera ni diffusée sur le web ni à la télévision. Toutefois, les citoyens et citoyennes peuvent consulter l'ordre du jour, les enregistrements audio, de même que les procès-verbaux des séances sur le site de la Ville. Femmes immigrantes, femmes racisées, femmes du monde, c'est le dossier présenté ce mois-ci par la Gazette des femmes, une publication du Conseil du statut de la femme. L'article de la journaliste Claire-Marine Béat traite du racisme sexuel, une facette du racisme souvent oubliée. Mêlant stéréotypes et désirs, il s'agit d'un racisme particulièrement insidieux dont les impacts sont nombreux chez les personnes qui en sont victimes. La sexologue Anne-Claudie Beaulieu a contribué à cet article. Au micro de Marjorie Champagne hier, elle nous décrivait que bien qu'il s'agisse d'une problématique complexe, des pistes de solutions sont à notre portée. On écoute Anne-Claudie Beaulieu.
D'écouter les gens. Donc, quand justement, il y a un malaise qui est nommé, hein, c'est donc de les croire, de ne pas les invalider pour dire, ben non, c'est un compliment, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi c'est dérangeant. Donc, plutôt que de prioriser nos propres désirs et fantasmes, de vraiment porter attention à l'autre et de laisser l'autre, en fait, se définir par soi-même. Donc.
Consultez l'article Racisme sexuel, des stéréotypes lourds de conséquences sur gazettedesfemmes.ca. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui...
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardinier par reçu sur les ondes de CKRFM et Facebook Live. Je m'appelle Larry Hodgson et je vous parle de mon bureau au sous-sol présentement. Ouh, il fait pas si chaud que ça, mais en tout cas, je regarde le sous-sol un peu plus frais. Pour certaines plantes qui aiment ça comme ça. Et s'il faut que je souffre une touche, bon, c'est la fin du monde, je suis capable de me réchauffer. J'ai assez de gras corporel pour ça. Fait que je ne souffre pas trop. Mais voilà, c'est la situation. À l'extérieur, une drôle de semaine. Doux, froid, neige, puis qui sait. Ça dépend d'où vous étiez dans la province aussi. Même chose cette semaine. Donc, c'est comme une température de mois de février, quoi. On est habitué. Donc, voilà. Et avec ça, on va aller aux questions, Zélian. Michel, sinon, je vais piger parmi mes questions à moi.
Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de questions, mon cher Larry. Alors, tu peux piger dans les tiennes.
OK, pas de problème. OK, la question ici est de Maude. Elle veut savoir, est-ce vrai que la paille de couleur rouge que l'on met dans nos plates-bandes et jardins de fleurs est très néfaste pour nos fleurs, que ça apporte insectes, nuisibles, maladies, etc.? On me dit que j'ai perdu plusieurs plants à cause de ça. Non, c'est pas directement nuisible. C'est certain qu'une paille teint artificiellement, alors quand même, c'est pas super extraordinaire comme paille. Mais il reste quand même que les paillis humaines, les paillis inorganiques, apportent du bien au jardin. Fait que c'est mieux que rien dans un sens. Le problème avec les paillis de teint comme ça, rouge, c'est un paillis de conifères presque imputrescible. C'est pas tout à fait. Éventuellement, ça va pour eux, mais ça prend des décennies peut-être. Mais on veut un paillis qui enrichit le sol, pas un paillis qui reste là, inerte, qui ne fait pas grand-chose. Donc, c'est un paillis qui est peut-être joli, là, je ne sais pas. Moi, je trouve que les paillis oranges sont un peu bizarres, mais c'est quand même un paillis qui ne donne pas grand-chose aux nouveaux richesses au sol. C'est rempli son rôle de garder le sol plus humide, ça fait bien. D'empêcher les germinations de nouvelles herbes, comme un autre paillis, c'est très bien. Mais au niveau d'améliorer la qualité du sol, ce n'est pas. Et d'ailleurs, pour les gens comme moi, ceux qui jardinent sérieusement, c'est terrible, ces paillis-là, parce que les particules se mélangent avec la terre quand on jardine. Et là, ils empêchent les plantes de pousser. C'est sûr que c'est à force de les, au cours des années, à force de les tasser, de les remettre, etc., ça fait les plantes mélanger. Mais moi, personnellement, j'ai déjà utilisé ce produit une fois et j'ai arrêté tout de suite. Je voyais bien que ça remplaçait même pas le papier journal comme paillis. Le papier journal était bien meilleur que ça. Mais en tout cas, ça se vend. Au moins, pour les marchands, c'est excellent. Parce qu'ils font de l'argent avec ça. Donc, voilà pour la réponse à cette question-là.
J'ai eu maintenant des questions. La première de Jeannette Ouellette qui écrit « Bonjour Larry, bonjour Michel. Savez-vous si quelqu'un a repris la distribution d'inoculants à pois Rhizobium? Je n'en ai pas trouvé l'année passée et j'en vois toujours pas cette année. »
Oh, je vais prendre une note pour la semaine prochaine. J'essaie de vous trouver des réponses. Oui, c'est un repris. Parce qu'on se rappelle, l'an dernier, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, quand on veut cultiver des pois, des haricots, d'autres légumineuses, c'est toujours bon d'ajouter un inoculum au sol pour aider à la croissance, le développement des bactéries bénéfiques qui font en sorte que ces plantes peuvent aller chercher l'azote. Normalement, on avait accès à ça facilement. Les gens qui vendaient des semences en vendaient. L'an dernier, le fabricant a cessé d'en produire. J'imagine d'autres chats fouettés. Je ne sais pas trop, je ne me souviens pas la raison. Et tout d'un coup, il n'y en avait plus à nulle part au Canada. Gros zéro. Et là, j'ai vu qu'il y a une autre compagnie qui le fait. Quelqu'un a repris charge de cette façon. C'est disponible à travers le monde. C'est juste le mettre en marché au Canada. Donc, quelqu'un a recommencé, mais je vais essayer de trouver la réponse la semaine prochaine pour savoir exactement où trouver ces produits-là, les inoculants pour les plantes de la famille du pois.
Je te laisse prendre la note, Larry, en posant la prochaine question.
Oui.
De Aiden Knight, qui dit « Je viens d'acheter un humidificateur programmable pour mon bureau. » Là où sont regroupées la majorité de mes plantes à l'air libre. Jusqu'à combien peut-on monter le degré d'humidité sans que ce soit dommageable pour les livres et les ordinateurs? Merci.
Oh, dommageable pour les livres et les ordinateurs? Il faudrait que ce soit 95%, quelque chose comme ça. C'est pas un problème normalement. Même pas. C'est que nous, les humains, on aime ça, l'humidité. Dans l'ordre de 50 à 60 les plantes préfèrent 60 et plus, en général. Et les plantes succulentes qui tolèrent moins. mais elle aime quand même avoir plus d'humidité que la maigre 30% qu'on a des fois dans nos maisons l'hiver. Donc, un humidificateur peut être intéressant. La mettez son maximum toujours. On manque toujours terriblement d'humidité dans nos maisons. Donc, il faut pas avoir peur pour les livres, pour les meubles, pour les tableaux. L'humidité va les préserver plutôt que nuire. Et c'est quoi l'autre que vous avez dit? En tout cas, c'est pas un problème, en fait. C'est pas un problème du tout.
En fait, il a seulement mentionné les ordinateurs et les livres.
Ordinateur. C'est pas grave, ça non plus. Tant que c'est pas dans l'eau, essentiellement.
Guy Morel écrit « Bonjour. Un abricotier peut-il être cultivé à Québec? »
Oui, mais c'est que ça se cultive, mais vous n'en voyez pas beaucoup. La raison pour ça est que l'avocatier est rustique, en tout cas, certaines formes sont mieux rustiques, même zone 3, mais ont tendance à fleurir très, très tôt. Ça veut dire quoi, ça? Ça fleurit tellement tôt que presque toujours les fleurs sont tuées par le gel. Ce qui fait que il y a peu de personnes qui cultivent des abricots sous notre climat parce que les fleurs sont détruites par le gel. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de fruits. L'abricotier va souvent le cultiver dans des régions où il reste froid très longtemps. Une fois que la foie est disparue, il n'y a plus jamais de gel. Mais dans nos régions, on va gel, pas gel. Ce n'est pas l'idéal pour cet arbre-là. Donc oui, ça se cultive, mais les résultats sont souvent faibles. Si vous l'essayez, essayez de voir dans une fournisseur du Québec. Peut-être qu'ils ont des vérités un peu supérieure que la moyenne.
Louisette Renaud, non, excuse-moi, Carmen Després, avant. Bonjour, peut-on bouturer une clématite Jack Manny?
Oh, bien sûr. Ça se bouture très facilement. La plante a beaucoup de tiges. Les tiges sont minces, prennent racine assez rapidement. On va quand même les faire bouturer, un peu comme on fait avec une plante intérieure, dans un terreau humide, couvrant avec un dôme en plastique transparent, avec un sac en plastique transparent pour garder forte humidité. Ça, on va toujours faire ça pareil, mais c'est pas très compliqué à faire. Encore plus facile, c'est de faire du marcottage. Avec un marcottage, c'est comme une bouture où on fait enraciner la plante, mais avant de couper, elle soit en croix-tache la plante mère. Donc, vous avez une clématite, Jack Manny. Disons qu'il y a une branche qui est plus près du sol. Détachez la branche, placez-la sur le sol, mettez une pierre ou deux ou des branches ici et là, sur la tige pour la tenir sur le sol. Et les racines vont se former là, et bientôt, de nouvelles tiges, et vous avez donc une autre clématite ou deux autres clématites. Donc, c'est quand même pas très compliqué de trouver une clématite.
Louisette Renaud écrit « J'ai deux cactus qui se forment comme une croûte beige dessus. On parle de la maladie de la croûte. Vous connaissez? Serait-ce un champignon, un insecte? Comment traiter? »
OK. Je vois souvent ce problème-là quand les plantes arrosent trop, et notamment l'hiver. Certains cactus doivent rester quasiment sans entretien pendant les mois de l'hiver, surtout s'il fait frais. Et si on arrose trop, l'eau monte, la plante va s'en débarrasser et ça fait comme décoller la peau et se brunir. Donc, c'est ça la maladie que je connais. C'est ni un insecte, ni une maladie comme telle, ce serait l'arrosage. Donc, il faut, c'est pas qu'il faut arroser quelques hivers. Mais si on les garde au frais, il faut les garder très secs et les arroser très attentivement. On arrose bien, on attend toujours, soit bien sec avant d'arroser de nouveau.
Patrick Lépine écrit « Quel semis pourrait-on commencer à faire? » Puis il a tout de suite écrit notre truc en dessous en disant « Fleurs pour le potager. »
Autre façon. C'est tôt, hein, c'est tôt pour faire des semis, mais on peut en faire. Ce qui arrive, c'est qu'on arrive au mois de mars. Évidemment, vous comprenez, les jours ralentent de jour en jour. Donc, ça devient de moins en moins pire. Mais habituellement, quand on s'est laissé, mais là, au mois de février, et ça germe, les plantes sont étiolées. Il n'y a pas assez de lumière. Donc, ça pose un problème aux gens qui veulent les entretenir. Donc, vous faites certainement attention de bien éclairer. C'est ça, habituellement, je dis aux gens, vous pouvez faire des semis au mois de janvier, au mois de février, si vous prenez l'éclairage artificiel. Parce que le soleil, dans nos régions du moins, au Québec, le soleil n'est pas assez fort, vraiment pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut semer à cette période-ci? Des choses comme des fleurs, vous dites des fleurs, des géraniums, des bégonias, des impatiens. C'est pas mal les plantes qui prennent le plus de temps. On peut les semer maintenant. Pour le protéger, c'est surtout des choses très, très lentes, comme, disons, même l'aubergine, c'est du bonheur pour l'aubergine. Moi, je dirais plutôt quelque chose comme l'asperge. L'asperge, vous ne voudrez même pas de production de la première année. Mais c'est bien de semer dans la maison pour gagner une certaine hauteur. Ça pousse tellement lentement avant de le repiquer dehors. Donc ça, on peut le faire maintenant. Mais la plupart des plantes, ça va tout au mois de mars et même au mois de mars avancé avant qu'on va commencer à faire nos semis.
On parlait de luminosité, Larry, il y a quelques secondes. De mémoire, je pense que depuis le 21 décembre, soit le début de l'hiver, on aurait gagné quelque chose comme une heure et demie de luminosité en deux mois, en fait.
Ah, oh, ben oui. Ben, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Ça que j'hésite un peu, parce qu'on arrive au mois de mars. Et même, supposons que février, c'est encore pas beaucoup. Mois de mars, au début, c'est un peu mieux. Et rendu à la fin de mars, on le rend avec 12 heures et plus de lumière par jour. Mais pour les semis, c'est quand même de faire attention. Au mois de février, c'est faible. Si vous semez au tout début de mars, les semis qui germent dans 5-6 jours, là, vous n'êtes pas si pire parce que le temps que ça lève, ça commence à pousser. On n'est pas même rendu près du 21 mars, de l'équinoxe du printemps. Je ne sais pas si c'est le 21 mars ou le 20, le 22, je ne sais pas. Mais on n'est pas même plus proche. Mais commencer au mois de février au début, surtout, c'est pas fort d'habitude. Voilà.
On y va avec la question de Sylvie Lalonde. Est-ce possible de régénérer le terreau utilisé pour la culture des légumes en bac et en pot pour qu'il soit réutilisable d'année en année?
Oh, absolument. Moi, je ne change pas mon terreau, au moins d'avoir un problème de maladie qui réapparaît. Donc, j'essaie de recycler mes plantes plus tôt, le plus possible, pour les cultiver au même endroit dans les fils. Mais le terreau, je m'en sers encore. Après, évidemment, j'étais voir sur le site web de mon centre jardin que qui déconseille fortement telle chose. Non, 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 ça prend un terreau frais à tous les ans. Après, en tout cas, vous pouvez les écouter. Moi, j'utilise le terreau comme c'est un terreau de jardin. Mais par contre, si je m'en rends compte que le plant que je vais cultiver commence à être malade à chaque fois, là, c'est le temps de penser. Là, c'est le temps de remplacer. Et même là, il faut penser quelque chose avec les maladies qui s'accumulent avec le temps dans le sol. Et n'oubliez pas que les maladies, en général, sont très spécifiques. Donc, si vous avez 2-3 maladies de tomates dans un terreau et que vous y cultivez des épinards, il n'y a aucun problème. C'est la même chose dans le jardin, même. Hein? Donc, ces terreaux-là, supposons que vous cultivez que des tomates, pas d'autre chose, et au bout de 7-8 ans, là, ça ne va plus. Trop de maladies. Prenez le terreau, mettez ça ailleurs, dans le jardin, dans la plate-bande, dans le compost, peu importe. L'utilisez quand même, il ne faut pas le jeter. Et là, acheter un nouveau terreau. Et bien sûr, nettoyer le contenant comme il faut aussi.
On y va maintenant avec Louisette Renaud. Pour faire suite à ma question précédente, c'est apparu à l'automne sur mon cactus. Ils sont sur le bord de la fenêtre sud, été comme hiver. Je l'ai depuis 3 ans et il était très beau.
Ça se peut aussi. Là, je présume toujours, dans ma tête, je voyais un cactus boule. Ça tend à se faire 153 rosiers. Ça se peut que ce soit normal aussi. Hein? Vous savez que certains cactus, notamment des épinières, ont des tiges qui sont vertes au début, deviennent tranquillement brunes, c'est normal. Ou les plantes cierges, cactus cierges. Au début, les tiges sont vert, bleu, vert, gris, vert, peu importe. Mais en vieillissant, ça devient brun aussi. Donc, ça se peut que ce soit tout à fait normal. Ça dépend de quelle variété qu'il s'agit.
Petite information, tu parlais de l'équinoxe tout à l'heure du printemps. Elle sera le 20 mars à 10h33 le matin.
OK, parfait. 20 mars.
Donc, le 20 mars à 10h33 le matin, on sera officiellement au printemps. Donc, Tommy Gagnon nous écrit « J'aimerais savoir comment protéger mes courges du perceur de la courge qui était partout à Montréal l'année dernière. Est-ce qu'il peut aussi attaquer les melons et concombres? »
OK, donc, le perceur de la courge préfère la courge. Mais évidemment, la courge, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est les citrouilles, c'est la courge végétale, spaghetti, je veux dire. Beaucoup, beaucoup de variétés différentes. Ça s'attaque à l'occasion au melon et assez rarement au concombre, mais ça perd. Bon, alors, pour comment les protéger? D'abord, c'est pas parce qu'il y en a eu beaucoup l'an dernier qu'il y en aurait autant cette année-ci. Tout dépend de bien des facteurs. Et comme c'est un insecte qui est nouveau, on ne sait pas trop comment ça se comporte au Québec. Et on verra bien avec le temps. Dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que repiquant, si vous partez à l'intérieur, en repiquant, emballez les tiges avec une feuille de papier ou papier d'aluminium, quelque chose qui recouvre l'emplacement, laissez le feuille, où les tiges et le feuille se joignent. C'est habituellement là que le fennel pond ses œufs et les œufs éclosent pour faire une larve qui creuse et qui commence à causer des problèmes. Si c'est couvert de papier d'aluminium, elle n'aurait pas accès. Ou encore, couvrir toute la plante avec une toile géotextile dès le début de la saison. De toute façon, je fais ça de façon routinière avec les courges, tout simplement parce qu'il y a d'autres problèmes aussi. Je ne veux pas en avoir. Fait qu'avec cette couverture flottante qu'on appelle, ça laisse passer l'eau, ça laisse passer l'air, ça laisse passer l'eau, l'air, quoi d'eau, soleil, ça laisse pas entre les insectes. Donc, ça marche très bien, à condition de faire une rotation. En tout cas, il faut combiner les deux. Mais ça serait assez. Une fois que la plante est plus grosse et commence à fleurir, il faudra enlever la toile. Mais au moins, la plante devrait être très avancée. Il y a peu de chances que ça cause des problèmes importants.
André Simard te demande, est-ce le temps de partir les canasses?
Les canards, on est où là? C'est le 23 février. Si vous avez une très forte éclairage, vous pouvez. Parce que le problème, c'est que vous allez partir tôt et il ne fait pas très soleil. Ça va donner des jours un peu moins fortes. Moi, je dirais mois de mars, d'habitude. Donc, dans les deux semaines, à peu près, ça va être encore plus certain, au moins d'avoir un éclairage. Si vous avez un éclairage artificiel qui est intense, une lampe d'aile, aucun problème. Les variétés de grande taille, c'est le plus important de les porter à l'intérieur si on veut voir les fleurs avant la fin de l'été. Les variétés naines fleurissent assez vite. Donc, il ne faut pas les porter si vite que ça si on ne veut pas que la plante fleurisse dans la maison. Voilà.
Eliane Laberge te demande quelles sont les plantes qui sont idéales à mettre dans un greenhouse avec une humidité de 70 et 12 heures de lampe.
Écoutez, 12 heures avec une lampe, 12 heures et 70% d'humidité, il n'y a pas grand plante qui n'aimera pas ça. Hein? Tant qu'il ne fait pas froid, là, ce serait peut-être la température qu'il faut contrôler. Mais presque toutes les plantes vont aimer ça. C'est comme des conditions parfaites pour les plantes. Hein? Les plantes aiment ça, un bon éclairage. Les plantes aiment vraiment beaucoup une forte humidité. Et d'ailleurs, j'ai toujours difficulté à convaincre les gens de ça. Mais vous savez, une forte humidité améliore nettement la photosynthèse. Les plantes qui manquent d'eau, d'humidité, les stomates n'ouvrent pas complètement. La plante respire moins. Si la plante respire moins, elle fait moins de photosynthèse. avec 70% et plus d'humidité, vos plantes vont aller à pleine puissance. Vous aurez une récolte plus hâtive et plus abondante probablement aussi. Donc, c'est une très bonne combinaison, une serre avec un éclairage supplémentaire. Voilà.
Sylvie Bertrand, elle aimerait savoir quoi mettre comme engrais à ses fraises au printemps.
Bon. Vous savez que je dis toujours aux gens, les plantes ne savent pas lire les étiquettes d'engrais. Donc, autrement dit, c'est presque pas d'importance. Il y a beaucoup de bons engrais sur le marché. Bon, personnellement, je penche vers le biologique, mais même peu importe. C'est presque pas d'importance. Et donc, moi, je dirais, prenez l'engrais que vous avez sous la main. Ça va être parfait. Que ce soit un engrais pour le gazon, un engrais pour fleurs, un engrais pour légumes ou fruitiers, les plantes ne savent pas. Les plantes vont juste aller chercher les minéraux qu'il leur faut. S'il leur manque un minéraux dans le sol et que ce minéraux est présent dans l'engrais qu'on a appliqué, les racines vont aller le chercher. C'est aussi facile que ça. Pas besoin d'un engrais spécifique pour chaque plante. Les engrais ordinaires, c'est parfaitement bien.
C'est drôle, Larry, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble à l'émission. Et cette question-là, j'aurais pu y répondre. Tu y réponds tellement souvent. Mais que moi, qui connais rien à l'horticulture, aurais pu facilement y répondre.
C'est au moins ça, oui.
Joanne Demers, je n'ai jamais utilisé cet inoculant pour les haricots. Et j'ai eu de très bonnes récoltes à deux reprises l'été dernier. Est-ce parce que les graines... Attends, est-ce que parce que les graines avaient été traitées?
Excusez, non. Ça a bougé. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi, vu qu'on sait comment, je pense que c'est l'ifolisie, en tout cas, le terme, quand on sait comment conserver ces bactéries sous forme de spores et les appliquer. Mais pourquoi on ne peut pas les appliquer sur les semences? De façon à ce que quand vous recevez votre séchet, il y ait déjà ce qu'il faut là-dedans. Bon, mais en tant que je sache, personne ne le fait. Qui sait, peut-être un jour. Voilà. Maintenant, vous avez une bonne récolte? Parfait. Allez pas chercher l'inoculant. Parce qu'il se trouve qu'il existe un peu partout des inoculants rhizobiens. Mais ils ne sont pas toujours là où on place la plante. Ils peuvent être dans le gazon à côté ou ailleurs sur le terrain, là où il y a déjà eu du trèfle ou quelque chose comme ça. Mais comme on ne sait pas, la chose la plus logique, c'est d'en rajouter. Il faut être certain d'en avoir parce que les plantes poussent beaucoup mieux avec ça. Mais comme on ne peut pas en avoir, mais ça devient pris pour vous, probablement que le bactérie est venu d'elle-même et habite maintenant votre sol. Hein? Il va être là, ça va être là des années de temps maintenant. C'est très persistant, ces bactéries-là, une fois qu'elles sont introduites.
Il y a Mathieu Lapointe qui, je crois, répond à quelqu'un qui a posé une question. Il écrit ActiSol 468.
Oui, ça, c'est un engrais. Puis un engrais de base, très bien, aucun problème. Si vous avez un autre engrais, c'est bien aussi.
Et Marielle Larenarde écrit, il y a 5 ans, j'ai planté un genévrier des rocheuses Wichita Blue. Selon les informations indiquées sur la pépinière, il devrait mesurer 12 pieds de haut par 4 pieds de large. Si vous connaissez cet arbre, puis-je me fier à ces informations? Je vais voir sur Internet et selon les sites, il peut devenir encore beaucoup plus haut et beaucoup plus large. Ce serait vraiment embêtant pour l'espace que j'ai. Merci beaucoup.
Oui, ça devient quand même beaucoup plus gros que ça. Il faut commencer à savoir quelque chose. Quand on vend des conifères, normalement, conifères mains du moins, normalement, on vous donne des mesures. Et les mesures n'indiquent pas la grosseur, la maturité. Ça indique après 10 ans. C'est comme si les marchands décident, les gens n'ont pas besoin de savoir plus que ça. on en donne jusqu'à 10 ans. Donc, normalement, votre genèverie va avoir ces dimensions-là dans à peu près 10 ans. Et si vous laissez encore un autre 10 ans, ça va être quasiment deux fois plus gros. Donc, vous comprenez que c'est plus gros que vous avez pensé. Vous faites tailler pour le garder sous contrôle. Mais la prochaine fois, quand vous achetez un conifère, mais pourquoi vous ne demanderez pas au marchand? C'est-tu des vraies dimensions finales? J'espère qu'il le sait. Mais en tout cas, ce serait l'idéal parce que normalement, quand je plante un conifère, mais j'utilise une mesure qui s'en donnée, c'est raisonnable. Je calcule que le plante va devenir à peu près deux fois plus gros au cours de 20 ans. Et au bout de 20 ans, très souvent pour un conifère nain, ils sont rendus au point où ils ne sont plus très bons. C'était, on a cultivé parce que c'était plus en boule ou étroit ou peu importe. Et ça se disparaît avec le temps. Donc, 20 ans d'utilisation, c'est parfaitement légitime. Fait que, non, ça va devenir plus gros ça. Je n'ai pas les mesures maximum, mais vous savez que c'est un arbre. Hein? Un arbuste, c'est un arbre. Fait que c'est sûr que ça devient grand avec le temps.
Louisette Renault semble donner un détail sur sa question précédente. Je ne sais pas si tu la vois. Elle écrit, c'est un Rubetia pulvinosa.
C'est un de ces tout petits cactus boules. Donc moi, je pense vraiment à celle-là pour laisser sécher plus l'hiver. Le frais, on fait du bien, mais il ne faut pas trop le roser dans ce cas-là.
Excuse-moi. Oui. Jérôme Tuneau. Un arbre en pot devrait-il constamment être emporté dans un pot plus grand indéfiniment jusqu'à ce que le pot fasse des mètres de large afin que les racines ne s'étouffent?
Évidemment, logiquement parlant, oui, mais on ne ferait jamais ça. C'est beaucoup trop de travail. Ce qui se passe, c'est que le fait d'être confiné dans un pot ralentit la croissance de l'arbre et que les racines tournent en rond à l'extérieur, c'est pas si nuisible que ça, parce qu'habituellement, un arbre en pot, on ne veut pas qu'il grandisse trop. Donc, c'est une façon de contrôler. Évidemment, on peut remporter, tant que c'est pratique de le faire, on est plus ou plus gros, et on peut couper, en se faisant, les racines qui font le tour. Comme ça, on règle un bon pratique, ce problème-là. À un moment donné, on parle encore d'arbres. Maintenant, dans un pot, on arrive à un point où on ne peut plus augmenter. Et là, il faut accepter comme cela. Que moi, j'ai un gros croton dans un pot de je ne sais pas quoi, un énorme pot, assez excellent, c'est de bouger. Cette plante-là n'aurait plus jamais dans un pot plus gros. C'est assez. Je ne le saurais pas. Mais il a commencé tout petit et tranquillement, je l'ai grossi le pot. Mais là, il est dans un énorme bac. Il ne peut pas aller dans d'autres choses. Ça arrive avec le temps, avec les arbres qui vivent en bois.
Jeanne Ouellette, elle écrit, merci pour la note plus tôt. Elle, autre question. Il y a 2 mois, j'ai démarré des boutures de Rapidophoria et de Maranta étouffées dans un vivarium maintenu autour de 18 degrés et 80% d'humidité. Chacune a 3 feuilles et un morceau de tige avec nœuds. Elles ne sont pas complètement mortes, mais aucune racine ne s'est développée. Une idée?
De toute façon, l'humidité aide à les maintenir. Hein? Là, vous avez ça de bien. Parce que quand c'est humide, les plantes durent et les chances que les racines se fassent sont meilleures. Mais c'est une question de probablement un peu trop frais. Êtes-vous capable d'augmenter la température? Il faut comprendre que les plantes ne prennent pas racine très rapidement l'hiver. Hein? C'est pas la saison pour ça. Habituellement, c'est au printemps. Donc, quand on bouture des choses fin d'automne, l'hiver, on s'attend à ce que ça puisse prendre des mois avant de bouger. Je crois probablement que c'est ça qui est arrivé. Mais moi, j'augmenterai la température. Enfin, plus vers 21 que 18. Mais 80% d'humidité, c'est excellent.
Steve Gagnon écrit qu'il a fait son potager en 2008. Depuis quelques années, il est de moins en moins productif. Je ne retourne pas la terre et j'ajoute chaque année du compost de fumier de poule. J'essaie aussi d'alterner la position des différents légumes. Avez-vous des suggestions?
Bon, avec un cas comme ça, ça, c'est difficile à répondre. Ça, faudrait faire une analyse de sol. Moi, j'irai carrément, évidemment, pas cette saison-ci. Il faut que ce soit dégelé et assez sec. Mais faites faire une vraie analyse de sol pour voir qu'est-ce que c'est qu'on nous dit. Peut-être qu'il manque un élément ou qu'il y ait trop de quelque chose dans le sol. Ça se voit pas, ça. Mais on peut l'avoir avec une analyse de sol pour prédire s'il arrive un problème à ce niveau-là. Et des fois, il faut accepter le fait que certaines plantes deviennent difficiles à cultiver. C'est pas arrivé récemment, mais j'avais déjà eu un jardin communautaire où je ne pouvais absolument pas cultiver des tomates à nulle part. Je mettais des tomates dans la terre, les maladies sortaient à gauche et à droite. J'ai donc continué avec d'autres légumes, et les tomates, je les ai cultivées en pot. Et en pot, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, ça se peut courir une situation où ce n'est pas possible de cultiver certains légumes. Mais ils devraient être capables de trouver des légumes qui vont permettre. Faites quand même une analyse de sol. Ça me semble que ce serait une chose à faire.
Agnès Saint-Jean. Bonjour, j'ai rempoté plusieurs pots, plusieurs petits aloès et la plante mère. Dois-je la garder la terre très humide? Crains la pourriture des racines. Merci.
Non, garde la terre plutôt sèche. Les aloès, comme d'autres succulents, c'est pas exactement votre plante typique. Elles ont l'habitude de sécher un peu entre deux arrosages. Et quand il y a une blessure, c'est mieux que ce soit sec pour cette plante-là que trop humide. Il ne faut pas s'inquiéter. Quand on met du terreau sec, directement sorti d'un sac, autour de la racine d'une plante qu'on a replantée, les racines vont quand même trouver de l'eau. Il y a de l'eau dans le terreau. Ça a l'air sec. Il y a de l'eau pareil. Moi, je dirais, empotez les plantes, attendez 2 semaines, au moins, 3, c'est une grosse tige nue, pour que ça cicatrise. Et après ça, commencez les arrosages plus normales. Mais là, c'est quand même séché. Quand vous voyez que la plante commence à pousser plus vigoureusement, là, vous pouvez faire un arrosage plus ordinaire. Mais au début, pour les succulentes, on va arroser moins que d'habitude.
Stella Pelletier, si on utilise des nématodes, entre parenthèses, sachets némaglobes, dans nos pots à l'intérieur et que l'on transplante ensuite nos plants dehors, est-ce nuisible à notre sol et à l'environnement?
Théoriquement pas. Je ne vois pas pourquoi le serait non plus. Les nématodes qui sont bénéfiques pour nos plantes, habituellement, ce sont des variétés qui s'attaquent aux insectes, aux autres petites créatures du sol, ou des limaces ou autre chose, et ils vont aider à réduire la population. Il y en a plein à travers le monde, mais on a trouvé des variétés qu'on peut commercialiser et les gens peuvent utiliser. Présentement, le Canada les accepte sans problème. D'ailleurs, en Europe aussi, aux États-Unis, c'est accepté en jardinage biologique partout. Aucun problème avec ça. C'est une façon d'avoir des plantes performantes sans utiliser de pesticides. Ce qui est d'habitude, pas de pesticides chimiques. C'est une pesticide naturelle, dans le fond. Donc ça, c'est en général une bonne chose.
Mélanie Arsenault. Quand on parle de partir des plantes ou encore les rempoter au printemps, est-ce que les conditions modernes que nous avons maintenant changent cette consigne idéale avec les mini-serres, humidificateurs et les lampes de croissance? On stimule la douce saison où la plante sera quand même en dormance. Merci beaucoup et bonne journée.
C'est une question compliquée parce que les plantes ont un horloge intérieur, comme les êtres humains, comme les animaux. Elles ont besoin de saisons, certaines plus que d'autres. Donc, quand bien même que vous maintenez une belle intensité lumineuse, forte humidité, bonne température à l'année longue, plusieurs plantes vont entrer en dormance pareil, parce qu'elles ont le cycle de le faire. D'autres ne le feront pas. Donc, c'est une question d'essayer vous-même, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que chaque plante est un peu différente. En général, les plantes originaires des milieux humides, tropicales comme des jungles, sont des plantes qui profitent mieux des conditions de forte humidité, bon éclairage constant. Par contre, les plantes qui vivent un climat où il y a des longues périodes de sécheresse ou un autre facteur qui les fait entrer en dormance, ces plantes-là, en général, réagiront moins bien. D'ailleurs, certaines plantes arrêtent carrément de faire la photosynthèse tout l'hiver, même sans les places au soleil, sont endormies complètement, ne réagissent plus. Donc, mais c'est vraiment quasiment du cas par cas, un peu difficile à calculer. Personnellement, ce que je fais, je cultive certaines plantes sur des lampes fluorescentes. Je ne suis pas rendu au DEL. Je ne me rendrai jamais au DEL, dans le fond. J'ai essayé de l'enfluorescence ici. Mais et je les règle des fois à 14 heures par jour, à l'année longue pour beaucoup de plantes. Et je profite des plantes qui aiment ça et qui poussent, qui fleurissent continuellement de cette façon-là, des semi-huissiers, et des plantes qui arrêtent de pousser et ne bougent pas pendant 3 mois. Écoutez, ben, voilà. C'est leur façon de faire. Moi, ça ne m'inquiète pas trop. Voilà.
Tu devras aller dans tes questions courriel parce que pour l'instant, sur le chat, il n'en a pas.
OK, parfait. Ici, c'est une question de Véronique. Je cherche activement un de vos livres, Coup d'éclat tombe 2. Malheureusement, je crois qu'il n'est plus disponible chez votre éditeur, ni aucun des termes d'ailleurs. C'est dommage puisqu'il me manque seulement celui-ci pour compléter ma collection. Savez-vous s'il sera de nouveau disponible? Pas sous forme imprimée. Ça me surprendrait beaucoup. C'est pas du tout prévu. Par contre, chez mon éditeur, vous êtes capable d'avoir Broquet, les éditions Broquet, vous êtes capable d'avoir le PDF, je crois, de ce livre-là. Mais imprimé, pour ça, il faudrait fouiller dans les magasins de livres usagés. Parce qu'en tant que je sache, c'est là, tout simplement plus disponible. Et voilà. Je n'ai pas d'autres suggestions que ça. Voilà.
Vas-y avec une autre question. Ça semble tranquille sur le chat, à moins qu'on ait un problème technique, là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions.
Pas de problème. Je viens d'acheter des bulbes d'été en magasin. L'Esticentra crocosmia. Est-ce préférable de les garder au frais pour les planter directement? Et si oui, comment les consommer? Conserver. Ou serait-il préférable de les planter en pot le transplanter plus tard. Autrement dit, dans les magasins, les bulbes d'été arrivent. C'est des plantes dans des sacs de plastique ou des boîtes et l'idée est de les planter dehors l'été et partir certaines dans la maison. Et la personne veut savoir, c'est elle du vin d'ailleurs la question, la personne veut savoir est-ce qu'elle peut les garder au frais comme ça emballés ou est-ce qu'il faut les planter en pot en attendant. Moi, je dirais, sauvez-vous une étape, laissez-les dans le contenant, le sac, pour l'instant, mais au frais. Trouvez un coin frais, mettez-les là, et quand ce sera le temps de commencer à partir des choses que vous allez mettre dehors pour l'été, vous pouvez toujours les emporter. Voilà. Mais ça dépend aussi. Est-ce que c'est, moi, je dirais, lisse, portez-portez dans la maison, l'Esticentra non plus, Crocosmia non plus. Mais vous pouvez quand même partir des bugonies tubéreux, vous les aller dans la maison. C'est possible. Voilà.
On a une question sur le chat. Steve Gagnon demande, avez-vous une nouveauté à nous suggérer, fleurs ou plantes pour cet été?
Oh mon doux, quelle nouveauté que j'ai vu. J'ai vu plein de nouveautés. Il n'y a rien qui me saute à l'esprit. Non, je n'ai rien qui me vient à l'esprit comme tel. Mais une suggestion, le thème cette année-ci avec l'année du jardin 2022 au Canada, c'est le rouge. Donc, pensez-y. Les fleurs rouges, c'est vraiment les fleurs qui vont être à la mode cette année-ci, avec cette influence-là. Donc, faites le rouge cette année-ci, et qui sait quoi l'an prochain.
Question auxquelles tu as déjà répondu à plusieurs reprises. Louise Renault te demande si après la pandémie, tu vas recommencer à faire des voyages.
La réponse à ça, c'est non. Non, ma santé n'est plus propice à ça. C'est fini les voyages et également les conférences. Je ne peux plus me fier complètement à ma voix. Je fais encore le Facebook Live tant que je suis capable de le faire. Mais chaque semaine, c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile. À un moment donné, il va falloir que je regarde ça aussi. Mais pas de voyage. Mais quand même, j'en ai fait pendant 38 ans, je pense. C'est quand même gentiment partagé mes voyages avec le monde. Et là, c'est fini.
Mélanie Arsenault écrit « Lila, j'en profite. J'ai planté l'enling de ma clôture sur un muret surélevé d'au moins 10 pieds du... » Elle écrit poids, mais ça doit être pieds, j'imagine. Elle m'a dit que la racine détruirait le muret. J'en serais responsable. Il me l'a dit gentiment. J'en ai trois de plantés l'an passé.
OK. 10 pieds. 10 pieds, c'est 3 mètres à peu près. Je ne vois pas comment ça puisse faire ça. C'est sûr que les... Je ne veux pas un muret est toujours une pointe faible. Ça dure vraiment éternellement. Mais les racines d'un arbuste, ça, les gens s'imaginent que les racines poussent cette structure. C'est pas vraiment ça. Les racines vont dans le sol, là où il y a des choses à chercher, d'intérêt, comme l'eau et les minéraux, et un mur, il n'y a rien là. Donc, habituellement, les racines, les plantes, les évitent pas mal. Moi, je vois pas de problème avec ça, mais vraiment pas.
Hey, ça va vite, tout d'un coup, ça déboule. Guylaine Bouchard, j'ai eu des trips dans mon Monstera. J'ai fait des boutures et je vais replanter. Vais-je éradiquer mon problème avec cette transplantation?
C'est possible parce que les trips vivent une partie de cycle dans notre terreau. Si vous le changez, ça peut faire beaucoup. Continuez de nettoyer le feuillage, juste le rincer avec de l'eau pendant que vous êtes en train de changer de place, déterrer, enlever le terreau, rincer les racines, rincer les feuilles. Une fois que la plante est dans un nouveau pot, vaporiser avec un gelé assez fort pour essayer de faire tomber. Moi, je me suis débarrassé assez facilement des trips et des monstera. C'est pas aussi facile sur d'autres plantes, mais le monstera a des bonnes résistances. Celle-ci, moi, je le prendrais. Je donnerais une douche régulièrement pour l'éliminer. Mais vous devez être capable, juste là, je pense.
OK. Stella Petit, j'ai reçu des graines de clérodendron. Quand les semer et conditions particulières?
OK, clérodendron, c'est un genre de plante arbustive ou grimpante, ou les deux, avec des fleurs assez voyantes en général, puis il y a beaucoup d'espèces. Il y a souvent des fleurs rouges, mais pas toujours, des fois roses. Les semences, ce sont des plantes tropicales. Donc, il faudrait les semer à la chaleur, les garder au chaud, faire germer. Une fois que ça a germé, ça va commencer à pousser, mais vous n'aurez pas de fleurs avant, au moins un an. C'est pas si vite que ça, cette plante-là. Ça prend du temps.
Jean-Pierre Coton se demande si un piège lumineux pourrait venir à bout de toutes ces petites mouches noires qui envahissent ces plantes. Où acheter? Et est-ce cher?
Piège lumineux pourrait facilement régler votre problème. C'est certain que c'est incroyable comme ça fonctionne bien, ces lampes-là. Le problème, c'est de trouver bon marché. Ça fait quoi? Au moins 30 ans, je le recommande aux gens et ça n'a pas bougé. On ne les trouve pas. Ils ne sont pas dans les centres jardins. On les trouve des fois en quincaillerie. Mais parce que la seule place où je peux les trouver de façon fiable, c'est chez les chez les exterminateurs. Et eux, pensez-vous, c'est, ils ne vous vendront pas ça pour quelques dollars. Aux autres, c'est une Cadillac des pièges lumineux. Ils vont vous vendre $200 et plus, alors que ça ne devrait pas coûter plus qu'une quarantaine de dollars. Mais en tout cas, c'est difficile. Moi, je fais venir par Amazon quand j'en vois. Mais pas toujours facile, ça. Trouver ça à bon prix, c'est compliqué.
Sylvie Brousseau. J'ai planté des bulbes en façade dans mon gazon, tels que tulipes, jacinthes, jonquilles. Qu'arrivera-t-il avec les engrais que l'on met nous-mêmes au printemps et à l'automne? Et je veux aussi semer du mini trèfle. Merci, bonne journée.
Ouais. L'engrais, ça n'a aucun importance là-dedans. L'engrais, c'est l'engrais, c'est vos plantes. Si les bulbes, vont le chercher. Si les mélanges de bulbes et de gazon, les bulbes et le gazon vont le partager. Donc l'engrais, c'est pas un problème du tout. Vous le mettez où vous voulez, pas de problème. Si vous avez du mini trèfle, c'est une autre plante qui va partager l'engrais. Non, il n'y a aucun problème à acheter l'engrais, c'est des pelouses, peu importe ce qu'on a planté là-dedans. Ce n'est pas un problème du tout.
Gisèle Théoret, que pensez-vous de la culture pour les plantes d'intérieur dans pays de cèdre?
Oui, je vois ça de plus en plus. Et habituellement, ce qu'on voit, mais les gens ne le disent jamais, c'est au bout d'un an ou deux, les gens abandonnent parce que les plantes dépérissent. C'est intéressant temporairement. À long terme, ça ne semble pas être très bien. Il n'y a rien dedans. Hein. C'est assez stérile. Les contrôles, les niveaux de pH dans l'eau, des minéraux, c'est compliqué. Et donc, c'est plus sécuritaire dans du terreau.
Guy Morel te remercie pour les réponses. Et il poursuit en disant: j'ai planté un abricotier il y a 5 ans. Il a poussé et penchant vers le sud de plus en plus. Il s'est presque couché par terre. J'ai fini par l'enlever. Il était trop près d'un autre arbre poirier, entre parenthèses, et d'autres obstacles, trampoline, garage, piscine. Un abricotier peut-il pencher par manque de soleil s'il n'a pas d'obstacle?
Écoutez, une plante peut pencher pour plein de raisons. Ça peut être la neige lourde, ça peut être la terre qui bouge, il y a plein de choses qui vont envoyer une plante par terre. Et c'est certain que si le soleil vient dans le seul sens, la plante va se pencher vers le soleil. Mais c'est pas un cas spécifique à l'abricotier. N'importe quelle plante va se diriger vers la source de lumière, surtout quand la lumière manque un peu.
Martine Joyal, est-ce qu'il faut jeter les terreaux si on a eu des tripes? On peut composter?
OK, le terreau et les tripes. Ah, intéressant comme question. J'avais pensé à ça. Moi, je dirais, si vous mettez votre terreau infesté dehors pendant le mois d'hiver, ça règle le problème. Parce que les tripes d'intérieur, c'est pas rustique à l'extérieur. Vous n'aurez plus de problème dans ce cas-là. En pleine saison, la plupart du temps, les tripes qui aboutissent dans notre compost vont être détruits par des microbes. Mais comme je ne suis pas 100% certain, je fais plus attention en saison. Mais en saison, comme ça, si vous avez accès à votre composteur, mettez le terreau là, ça va geler. Et les larves de trips, les nymphes de trips vont geler avec. C'est violent.
Je ne sais pas si c'est la même personne, mais on a la même question. Micheline Beauchemin, est-ce que c'est le temps de partir les canards en zone 5?
C'est la même question, oui. Ce n'est pas la même personne, mais c'est ça. Ce qui arrive, Michel, c'est que les gens se rendent compte que les jours rallongent, ils veulent se lancer dans le jardinage, ils cherchent des choses à faire. C'est encore quand même tôt pour le canard. J'attendrai quand même 2-3 semaines. Et après ça, c'est le faire. Surtout pour les vérités, les grandes vérités de canard. Les vérités naines, elles partent beaucoup moins tôt que ça.
Lucie Desjardins, mes clématites ont été atteintes de flétrissure il y a 2 ans. Puis-je en replanter sans problème?
Habituellement, ça se tient dans les tiges. Donc, normalement, vous n'aurez pas de problème.
Daniel Cordeau. Connaissez-vous la nouvelle tendance de la culture plante d'intérieur en paillis de... aussi, c'est la même question que tout à l'heure par rapport au paillis de cèdre. Est-ce que toi, il te reste peut-être une question de ton côté?
Pas de problème. Ici, j'ai une question. OK. Jean Racine qui écrit ça. J'ai une rangée de cèdres derrière la maison qui sont plantés à environ un mètre l'un de l'autre. Et un des cèdres a complètement jauni, ainsi qu'une partie de son voisin. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, pour la plante qui est complètement jaunie, enlevez-la. Il faudrait peut-être mettre une autre à la place, si vous voulez que ça ferme relativement rapidement. C'est peut-être un peu petit, il va grandir quand même. Pour la plante qui est à moitié jaune, à vous décider. S'il est vraiment pas beau, enlevez-la aussi, plantez une autre. Ce serait la solution que je vois. Pour un cas semblable.
Sylvie Brousseau. Je planterai des topinambours près de ma serre. Ceux-ci envahiront-ils mon voisin? Son terrain... tabarouette. Son terrain tout près du mien. Merci.
C'est une plante envahissante. Mais elle ne court pas vite. C'est pas comme d'autres. Ça va être plutôt localisé. Donc, c'est pas si pire. Cette plante a fait une énorme touffe, mais elle est chez le voisin. Pas nécessairement. Mais à vous de vérifier. Si ça s'en va vers lui, il faut le retirer. Pour ne pas laisser envoyer son terrain pour une plante.
Rapidement, une dernière question. Daniel Cordeau. Meilleur truc pour favoriser floraison de cactus, orchidée?
Plein de soleil l'été, plein de soleil à l'automne aussi. Et frais et sec l'automne et l'hiver. Fait que ces combinaisons-là, frais et sec l'hiver, même froid, presque 4-7 degrés, là, vraiment frais, ça stimule énormément. Et après ça, la floraison n'a pas lieu tout de suite. Une fois que la plante est retournée plus à la chaleur, que vous aurez repris les arrosages, c'est là où les fleurs sortent en général. Et avec ça, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à visiter mon site web, journeeparousse.com. Et je remercie beaucoup, comme toujours, Michel Bédard pour le côté technique et Marlène Bordelot qui fait le joint avec Sekaya. Je m'appelle Larry Hodgson. On va vous revoir la semaine prochaine, toujours mercredi à 19h. Toujours Facebook Live. Bye bye pour aujourd'hui. Là.
Bye.
Bon. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
L'acte de la beauté, un documentaire de Nicolas Paquet.
La propriété appartient très précisément à personne.
Venez à la rencontre de la ferme collective Sagittaire, l'œuvre de Jean Bédard, écrivain, philosophe et paysan.
Devant le grand jardin triomphant que je vois, un sentiment se forme de lui-même. C'est beau à pleurer.
L'acte de la beauté, dès le 25 février au Cinéma Quartier.
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Sherpa présente. Crash ton COVID.
Odette Tremblay.
COVID. COVID. Nous sommes dans ce mouvement depuis trop longtemps. Unissons-nous, main dans la main. Envoyez. Qu'est-ce qu'on attend? La soumission a assez duré. C'est à en parler, c'est pas gênant. Être isolé, oublié, c'est pas se faire respecter. L'humiliation a assez duré. Ouvrons nos cœurs pour en parler. À l'horizon, il y a une solution.
Crache ton COVID.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.